ça devient une tradition pour mon retard. Non seulement je viens, bon, je suis venu aujourd'hui, c'est une catastrophe, je viens de très très loin, ma voiture est tombée en panne. Et arrivé ici, je trouve un problème administratif que je devrais régler. Donc je m'excuse pour tout ce retard-là. Donc je vous rappelle que le week-end prochain, il n'y a pas de cours, d'accord? Et celui d'après non plus. Donc c'est jusqu'au 9, je crois. Le 8 ou le 9, je ne sais pas c'est quoi le 8 ou le 9. Je crois que c'est le 9. Le 9, voilà. D'accord? Taïb. On prend rapidement le cours de Tawhid, ensuite on va parler de...
C'est le 10.
Non, c'est le 10? Le 10, d'accord, c'est le 10. C'est le 10. Dimanche 10. Donc pour le cours de Tawhid, si je me rappelle très bien, on a terminé tout ce qui concerne les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bien ça? On a parlé des attributs. On a terminé tous les attributs. On a détaillé tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que nous devons attribuer à Allah azza wa jal. Et on a dit que ces attributs-là, il faut comprendre que, en parlant du mustahil, pour définir le mustahil, l'impossible, c'est-à-dire il est impossible de qualifier Allah azza wa jal par le contraire de ces attributs-là. Donc, quand on dit on doit attribuer à Allah azza wa jal ces attributs dont on a détaillé, donc il nous est interdit de lui attribuer le contraire de ces attributs-là. Et on a détaillé les 13 attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque attribut, et on a donné l'argumentation, bien sûr, par le texte et l'argumentation par la raison. Et on a dit que l'argumentation par la raison suit le texte et non pas le contraire. Chez les sunnites, contrairement aux mu'tazilites, on démarre du texte, on dit ce que le texte nous dit, la révélation, parce que la croyance, on ne peut accéder à la croyance qu'à partir du texte. D'accord? Et la raison vient argumenter et donner raison au texte. Mafhoum, inshallah. Donc, il va terminer la question des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, ce qu'on a traité, on ne va pas dire des généralités, parce que ce qu'on est en train d'étudier, à peu près, c'est le programme c'est le programme d'Al-Azhar, ou soyez sûr, ou bien des Zaytouna. Bon, on n'a pas le même niveau des arabophones, mais le contenu, c'est ça. C'est-à-dire, du point de vue je parle du tawhid, le fiqh, bon, c'est l'équivalent du lycée, dans l'Azhar. Mais point de vue tawhid, c'est la crème, c'est le fond même de sujet de la croyance. Malheureusement, ces sujets-là sont, dont nous traitons, à savoir, déjà, ciblés, qui sont les sunnites. Parce que tout le monde, colonia de Dariwa Sambilay, là, tout le monde prétend être sunnite aujourd'hui. Tout le monde prétend appartenir, comment on dit, au groupe sauvé. Toujours, on nous rappelle qu'il y a 73 groupes, il y a 72 qui sont égarés, etc. Il n'y a qu'une seule qui est sauvée, selon le hadith, bien qu'il y ait une discussion sur l'authenticité de ce hadith-là. Sauf une, tout le monde aujourd'hui prétend que c'est lui le groupe sauvé. Ben, le groupe sauvé, c'est tout simplement la majorité de la Ummah. Ma communauté ne se met jamais en accord sur un égarement ou sur une déviance. Donc, à travers l'histoire, nous avons une Ummah, et historiquement et géographiquement, on a aussi une Ummah. Donc, cibler cette masse, on va dire, générale de la Ummah historiquement, et cette masse générale géographiquement, vous allez vous situer dans, c'est-à-dire le groupe sauvé, ou bien ce qu'on appelle le Sunnah ou le Jama'a. Taïb. Ça, c'est très important. Ensuite, une fois ciblé ce groupe sauvé, on va parler de qui sont les autorités scientifiques du point de vue de la théologie, de la croyance, du tawhid, parce que c'est très important qu'on connaisse quelles sont nos références, non seulement dans la science du tawhid, mais même dans les autres disciplines, à savoir du fiqh, à savoir de la science du hadith, etc. Pour qu'on sache... quand on veut apprendre quelque chose, de qui nous allons apprendre ces choses-là? Quand on veut connaître le hadith du Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a des références qui sont connues à travers notre histoire, l'imam Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Malik, et leurs commentateurs. C'est très important, c'est-à-dire les commentateurs de ces grands monuments du hadith. Pour savoir peser, aujourd'hui, on a des gens, on va dire, ou bien même historiquement, il y a eu des gens qui se sont autoproclamés, on va dire, comme des grands spécialistes dans la science des hadiths. comme ils se sont autoproclamés comme des références dans le sens du tawhid, etc. Donc attention, c'est pas parce qu'un livre se vend et qu'il est écrit en belle calligraphie arabe, qu'il est beau, qu'il soit dans une librairie musulmane, qu'il est à prendre. Donc faites très attention à ce que vous lisez. Et un musulman ne doit pas tout gober comme ça facilement. C'est quelqu'un d'intelligent, de réfléchi, qui devrait toujours avoir une critique. L'islam n'est jamais contre la raison, c'est très important. Et l'islam appelle toujours à l'unité de la Ummah. Donc quand vous avez des gens qui appellent au déchirement, qui critiquent, qui attaquent, ou bien qui blasphèment, ou bien qui font sortir d'autres musulmans de la Ummah, donc ceux-là, ils ne sont pas sur le droit chemin. Donc un bon musulman, il peut avoir une différence ou une divergence avec d'autres musulmans, dans tout bord, bien sûr, alhamdoulilah, heureusement qu'on n'est pas tous d'accord sur toute chose, mais il faut que la divergence reste scientifique. Il faut que l'unité de la Ummah prime, il faut que l'amour entre les musulmans prime. La divergence, c'est-à-dire je ne suis pas d'accord avec toi sur des choses scientifiques peut-être de croyance, je te critique, je peux argumenter, ramener ma critique, mais ce n'est pas pour autant que tu es mon ennemi, tu resteras mon frère, tu es un musulman. Et c'est l'avis de l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari avant sa mort, et c'est l'avis de l'imam Ibn Taymiyyah avant sa mort, ils ont dit textuellement que « La nukaffiru ahadan min ahli al-qibla » on ne rend jamais mécréant quelqu'un qui se dirige vers la qibla. Il peut dire ce qu'il veut, du moment, bon, bien sûr, à condition qu'il ne remet pas en cause les choses fondamentales concernant la croyance. Quelqu'un qui va dire, non, écoutez, de toute façon, le Coran que vous avez entre les mains, il manque des versets. Ou bien, moi, j'ai des versets qui n'existent pas dans le Coran. Ça, c'est clair et net, c'est n'importe quoi. Donc, bon, bien sûr, on ne fait pas de kfir de ces gens directement. On leur explique, on essaie de leur prouver que, écoutez, ben, le Coran, c'est nous est rapporté par des chaînes de transmission, etc. etc. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler, Inch'Allah, des prophètes. Donc, on a dit que, donc on a parlé de ce que nous devons attribuer à Allah, il nous a détaillé les attributs d'Allah, Azzawajal, et ce que nous n'avons pas le droit de lui attribuer, c'est-à-dire le contraire des attributs qu'on a vus, et nous allons rentrer directement à parler des prophètes et ce que nous devons leur qualifier et ce que nous n'avons pas le droit de leur qualifier. Donc tout d'abord, on a défini qu'est-ce que c'est qu'un prophète, à ma connaissance, on a déjà parlé de ça. On a dit que la différence entre un prophète et un messager, déjà le nombre, on a dit qu'il y a 124 000 prophètes, et il y a 314 divergences entre les savants, 314, 315, l'avis majoritaire, 314 messagers. Donc, un messager, tout messager est un prophète, et pas le contraire. Donc, tout messager, « Kullu rasoulin nabi, walaysa kullu nabiyin rasoul ». Et on a donné un exemple banal, d'un grade de l'armée pour comprendre, c'est-à-dire pour devenir commandant, il faut être déjà capitaine. Hein. Bon, sauf dans les pays musulmans, il n'y a pas de problème. Un sergent, du jour au lendemain, il est général. Alors là, ça, c'est l'exception. Hein. Vous avez des sergents, il est général le lendemain. Bon, ben, ça, c'est connu chez nous. Dans les pays arabes, c'est quelque chose de normal. Mais bon, dans les pays occidentaux en général, il faut qu'ils fassent preuve de science, d'expérience, etc., etc. Donc, avant qu'il soit commandant, il faut qu'il soit capitaine. D'accord? Donc, on va dire tout commandant est capitaine. D'accord? Donc, on dit tout prophète, tout messager est prophète. D'accord? Et ce n'est pas tous les capitaines qui sont des commandants. Et ce n'est pas tous les prophètes qui sont des messagers. Mais faut, Inch'Allah, le message. Ça y est. Voilà, voilà. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, on a, pour revenir au messager, donc les prophètes, ils viennent. Les prophètes ils viennent pour soutenir un messager qui est en leur temps, hein, il peut être en leur temps, ou bien qui les a précédés. Donc ils viennent le soutenir point de vue juridique et point de vue théologique. Dans la jurisprudence, on a dit qu'un prophète ne ramène pas une jurisprudence. Il faut savoir aussi que Allah subhanahu wa ta'ala peut lui donner, lui ordonner une jurisprudence. Mais que cette jurisprudence qu'Allah Azza wa Jal lui ordonne, quand on dit jurisprudence, c'est-à-dire ce qui le rend interdit pour lui, ou bien c'est-à-dire les obligations juridiques qu'il va lui donner, comme faire l'aumône, faire salat, faire ceci, ne pas faire cela, les interdits, les obligations que peut lui donner un prophète, hein, pas un messager, je commence par le prophète. Cette jurisprudence, elle sera spécifique à lui et à sa famille seulement. Donc il ne va pas la dire aux autres, il ne va pas dire aux autres, non, il faut pas. Ça sera spécifique pour lui. Sinon, quand il va dans la société, il va soutenir le messager qui est dans son époque, qui a une jurisprudence, bien sûr, ou bien celui qui l'a précédé. Mais point de vue théologique, bien sûr, on a dit que tous les prophètes, tous les messagers, il n'y a pas un messager qui est venu et vous dit écoutez, il y a deux dieux, voilà. Tous ces gens, ils ont ramené la même parole. Kulluhum ja'u bit-tawhid al-khalis. Et on a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois que, si on compare l'humanité à un train qui marche sur des rails, à chaque fois que ce train-là, c'est-à-dire sort de son chemin, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un prophète ou un messager pour remettre l'humanité sur les rails de Tawhid, d'accord, sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois que l'humanité dérape, on la remet sur les rails, il y a un prophète ou un messager qui vient la remettre sur les rails. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tawhid, la croyance, c'est le même message apporté par tous les prophètes de Sidna Adam jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais la jurisprudence, elle diverge, d'accord. La façon de prier, la façon de jeûner, les interdits, les obligations, etc., etc. Donc on a donné des exemples qui ont existé dans les communautés qui nous ont précédés, où quelqu'un qui a une impureté sur, ça a été chez les Israélites, c'est les Juifs, quand il a une impureté, à un moment donné, sur ses habits, nous, dans notre jurisprudence, tu as une impureté sur tes habits, tu ne peux pas prier, tu dois laver cette impureté. Eux, ils doivent la couper, d'accord, complètement la couper. Donc, il y a une jurisprudence qui existait. Hein. Le messager, il apporte non seulement le message, c'est-à-dire il apporte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut être un livre, ça peut être des tables, ça peut être des commandements, ça peut être de toutes les façons. Il a un message avec lui à transmettre, d'accord. Contrairement au prophète, il n'a pas un message bien précis écrit, un livre qui va amener avec lui. Mais quand même, quand on dit un message, il va apporter bien sûr un message, ça peut être l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas un livre, pas des tables, pas des commandements, etc. Le messager, il doit apporter un livre avec lui. D'accord. On a les évangiles dans leur original, la Torah, l'Injil, Zabur, hein, la Torah, les évangiles, Zabur, c'est comment on appelle ça, Zabur, c'est Nadaw, hein, Psaume, etc. Donc, ce sont des livres qui ont existé. Bon, mais nous, musulmans, on considère que ces livres-là ont été falsifiés. Donc, la main de l'homme est entrée dans ces textes-là et a changé les textes originaux, comme le dit Ahmed Didat, rahmallah ta'ala, qui est un des grands spécialistes que le monde musulman a connu, rahmallah, qu'il n'y a pas, malheureusement, aujourd'hui, il dit que j'ai consulté 24 000 manuscrits biblique, il n'y a pas deux manuscrits qui se ressemblent. Donc, c'est quelqu'un qui était chrétien, hein, qui connaît très très bien le christianisme dans son fond. Donc, la main de l'homme a travaillé, hein, a travaillé là-dedans. Et l'homme croit être très intelligent, faire adapter le texte, sans parler de la traduction de... C'est-à-dire, quand vous avez un mot qui est traduit 7-8 fois, donc il perd son âme. Hein, c'est complètement, comme on dit, traduire, c'est trahir. Donc revenons au messager, donc non seulement il apporte avec lui un livre, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il apporte aussi, donc c'est lui qui parle de l'unicité bien sûr, et donc il rapporte une jurisprudence, c'est très important. Donc il rapporte avec lui une jurisprudence, cette jurisprudence doit être suivie, appliquée par la communauté dont il est ordonné de faire appel. Donc les messagers qui ont précédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont envoyés à des peuples, sont envoyés à des tribus, sont envoyés à des générations, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'est envoyé à toute l'humanité entière. Ces prophètes, bien sûr, ils ont des qualités dont nous devons leur attribuer. La première qualité, ce qu'on appelle la protection divine, l'amana. La protection divine, l'amana. Alors,
On peut l'appeler aussi l'esma, si vous voulez. Cela veut dire qu'un prophète, il a une protection divine. C'est-à-dire qu'il le sauvegarde de toute maladie répugnante et en même temps, il est préservé par Allah subhanahu wa ta'ala des péchés et des déviations. Donc, il est préservé par Allah subhanahu wa ta'ala des péchés et des déviations. Donc il n'a pas le même comportement d'un homme ordinaire. D'accord ? Sinon, il ne serait pas un modèle. Donc quand vous avez dans quelques films qui nous présentent comme ça les prophètes, etc., comme des clochards, ou bien comme des alcooliques, ça fait rire. Parce que, subhanallah, comment il peut être un modèle ? En même temps, c'est un alcoolique, en même temps, il va boire de l'alcool pour coucher avec sa fille ou sa tante, ou c'est de n'importe quoi. Il ne peut pas donner l'exemple, ce n'est pas possible. Il devrait être l'exemple dans la société, un prophète. Il faut qu'il soit un grand exemple de pureté, de droiture, d'intelligence, de modestie, de science. Toutes ces qualités, ce qu'on appelle d'un homme parfait. Hein, un prophète doit être qualifié un prophète par toutes ces qualités-là. Donc les grands savants, ils ont dit, il y a quatre grandes qualités que toutes les autres qualités, bien sûr, on ne peut pas limiter les qualités des prophètes dans quatre qualités seulement, mais comme on a fait pour les attributs dans l'Esprit Saint, il y a quatre grands titres que toutes les autres qualités rentrent dans ces quatre grands titres dont nous devons attribuer au prophète. Donc, non seulement il est protégé des péchés, parce qu'on ne va pas dire un prophète avant la révélation, il adorait les statues. Malheureusement, on a vu, hein, moi j'ai lu, je ne cite pas les noms parce que vous serez choqués, pseudo-savant qui dit, Sayyiduna Shu'aib, il était mécréant. Il était mécréant avant que la révélation. C'est du n'importe quoi. Comment ça, il était mécréant? Subhanallah. Il y a dans la soul, subhanallah. Ils ont tous les prophètes. Il n'y a pas un prophète qui s'est prosterné à une statue. Tous, ils avaient la foi et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont la révélation après pour avoir la jurisprudence. D'accord? Mais tous, ils étaient purs de croyance. Ils croyaient à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les prophètes. Avant et après la révélation. Non. Donc la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala divine, c'est ma bil-isma ou l'amana. Naam. Fait que le prophète, non seulement il est protégé des péchés, non seulement il est protégé de tout égarement, non seulement il est protégé de tout dérapage, même de l'oubli, parce que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il oublie quelque chose, c'est Allah azza wa jalla qui le fait exprès oublier, afin qu'il y ait jurisprudence sur une question quelconque. Allah azza wa jalla lui a fait oublier pendant la prière de rak'at, la prière de 4 rak'at a fait 2 rak'at, donc pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il corrige cette prière, pour que nous apprenons comment nous devons corriger nos prières, d'accord? C'est très important. Aussi, un prophète, il est protégé, on va dire, il ne commet pas de péché, etc. Mais aussi, il ne peut pas être atteint de maladies qui font fuir les gens de lui. Tout ça rentre dans cette première qualité. Donc, quand vous allez lire dans la Bible, ou bien dans les quelques mêmes livres d'ouvrages de tafsir, de quelques musulmans, pour qu'il y a des gens, malheureusement, ils mettent tout, hein. Bien que c'est des mots fassirines, mais ils répètent ce qu'on appelle Israéliat. Donc c'est des textes qui sont ramenés à gauche à droite dans des livres écrits par les Israélites ou de leur époque ou bien avant, etc. Pour faire une belle histoire ou bien parce qu'ils sont authentifiés la chaîne de transmission de l'information, parce que quand on écrit quelque chose sur un prophète, nous devons vérifier l'authenticité de l'information. Et il y a toute une science là-dessus, des sciences des hadiths, qui permet à la personne de vérifier est-ce que cette formation elle est authentique ou non. On aura pas, par exemple, Sina Ayyub, tellement il était malade, il y avait des vers qui sortent de lui, il puait. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment il peut faire appel à Allah Azza wa Jalla, il pue? Ça ne se comprend pas. Donc, un prophète peut tomber malade, bien sûr, mais une maladie légère qui ne l'empêche pas de faire la da'wah ilallah subhanahu wa ta'ala. Parce que da'wah ilallah, c'est un... C'est le premier principe d'un prophète. Il est pas là pour prendre un café, rigoler avec les gens. Il est là pour faire appel vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment, s'il était malade, impuissant de bouger, comment il peut faire appel à Allah subhanahu wa ta'ala? Ou bien s'il était atteint de maladies qui font fuir les gens de lui, puis machin, etc. Ça, c'est impossible. Donc, si vous trouvez ça dans les livres, etc., hop, sachez que c'est faux. D'accord ? Deuxième qualité, as-sidq, la véracité. Donc, ce qui veut dire tout simplement qu'un prophète ne ment jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la révélation, les gens du Quraysh l'appelaient Al-Amin, Muhammadun Al-Amin, ça. Donc, même au moment où les koufars lui déclarent la guerre, ils ont on va dire, celui qui a quelque chose qui a une valeur. Aujourd'hui, tu as quelque chose qui a une valeur, tu vas le mettre dans une banque bien assurée, etc., garantie, etc. Ils venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils mettaient tous leurs biens, des bijoux, etc. Tellement ils ont confiance en lui, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les garde. Même quand il a fait le hijra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a quitté la Mecque vers Médine avec Sayyidina Abu Bakr, il a laissé Sayyidina Ali, il lui a dit, écoute, tous ces biens-là qui sont là, cet objet de valeur, il appartient à Boudia, cet objet de valeur appartient à tel. Tous les Qurashi, tu l'auras même en partant, il n'a pas dit attention, hein, moi je vais prendre la revanche, et bien ils ont tout leur bien, je les ai, hop, je vais les porter avec moi. Non. Malgré ça, ils ont tout leur bien, c'est-à-dire ils savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam amine, c'est-à-dire ils gardent tout ce qu'ils ont laissé chez lui. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a eu la révélation, il est monté sur une montagne, il a fait appel aux Qurashites. Il les a appelés. Il les a appelés par leur nom et tout le monde est venu. Bon, ils savent que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas n'importe qui. C'est un jeune, très, très sérieux, et il est très connu par sa droiture, et il ne ment pas, etc., etc. Il les a appelés. Il leur a dit, oh, gens de Quraysh, sont tous venus. Il a dit, si je vous dis que derrière cette montagne, il y a une armée qui veut vous attaquer, est-ce que vous allez me croire? Ils ont dit, oui, on a connu de toi que la vérité. C'est sûr que si tu nous dis ça, c'est clair, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il va dire, alors écoutez-moi très bien. Je suis, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah m'a envoyé vers vous pour vous dire, adorez Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le premier qui s'est mis contre lui, ce n'est pas la personne la plus lointaine, c'est lui qui a ouvert la porte. Parce que les gens, ils étaient au début bloqués, ils ont dit, bon... on connaît, il dit la vérité, qu'est-ce qu'on veut le croire, pas le croire. Mais quand quelqu'un qui est plus proche s'attaque, c'est qu'il a ouvert aux autres qui sont loin. Ils vont se permettre. Donc c'est son oncle, Abu Lahab. Tabatiada Abu Lahab, vous connaissez. Qala li Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tabban laka ali hadha jama'atana. Oh, il a dit, tabban, c'est-à-dire, c'est une parole pour dire, oh, c'est pour cela que tu nous as réunis, c'est pour cette chose futile. On ne croit pas à ce que tu racontes là. Allez hop. Donc il a ouvert la porte aux autres, ils se sont déchaînés. Ils se sont déchaînés. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est allé voir le rahib, j'ai oublié le nom, Maïsmouhou, qui est de la famille de Khadija, hein? Non? J'ai oublié son nom. Naam. Voilà, exactement. Naam, Naufel. Il lui a dit, chaque prophète, les premiers amis, ce sont les gens les plus proches de lui. Ils vont te faire sortir de ta... Il lui a dit, c'est une règle générale. De toutes les façons, ils vont me sortir de la Mecque, de mon pays. Il lui a dit, oui, chaque prophète, ils l'ont fait sortir de... C'est-à-dire, t'inquiète pas, parce que plus tu es pur, plus tu appelles à la vérité, plus tu déranges. Donc, soit on rassuré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne, nous devons tirer des exemples de sa vie, de son comportement, en tant que musulman, que nous allons pas avoir une vie simple dans un monde hostile à la vérité, hostile à la justice, que ce soit dans le monde musulman ou le monde occidental. De toute façon, même... Donc, le musulman, il est appelé à garder son cap. Sayyidina Ali yaqulu radiyallahu ta'ala anhu. لا تستوحش في طريق الحق ولو قل أهله. Ne te sens pas seul dans le chemin de la vérité, même si tu sens que tu es seul, parce que Allah subhanahu wa ta'ala ma'ak. C'est Allah qui est avec toi. Il ne faut pas que tu te sens que tu es isolé, comme on dit, minoritaire, machin. Non, tu as la vérité qui est avec toi. Lève ta tête et marche avec honneur, Et ne te mets pas, bien sûr, marche avec modestie, etc. Mais la vérité, laisse la vérité que tu portes en toi, son nom, ce nom-là, laisse-le s'éclater. C'est lui qui va te défendre. Parce que c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un sabre tranchant. Un musulman, quand il parle, c'est la vérité qui sort de sa bouche, à condition qu'il y ait la sincérité. Ça, c'est très important. S'il a la sincérité et qu'il a la modestie, qu'il commence à apprendre la science, il dit ce qu'il pense, sans avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut, bien sûr, dire ce qu'on pense avec, on va dire, modestie, avec amour aussi. On ne peut pas avoir de la haine vis-à-vis des gens en les appelant en islam. Avec un boost, c'est une belle chose. Le professeur Hassan était tout le temps souriant. Il s'est dit, « L'ud'u ila sabilak bil hikma wal maw'idati l'hasana wa jadilhum billati hiya ahsan. » C'est-à-dire, « L'ud'u fi adawa Allah azawaj bil hikma, avec sagesse, bil hikma wal maw'ida, avec le bon rappel, wa jadilhum billati hiya ahsan. » Quand tu débats avec eux, avec la bonne façon, il ne faut pas que tu sois énervé, il ne faut pas que tu rentres dans des polémiques un peu agressives, etc. Ne rentre pas dans leur jeu, parce que tu tiens la vérité, parce que tu appelles au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa lumière. C'était le cheminement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dont nous devons prendre comme exemple. Allez, ça va tout ça. Donc on l'a. Deuxième qualité, c'est la véracité, donc sidq. Donc bon, c'est des traductions, peut-être qu'elles peuvent être revues. Bon, ça, on a essayé de traduire, hein. avec des frères un peu spécialisés, on va dire, as-sidq, c'est-à-dire qu'un prophète ne ment jamais. Donc, tout ce qu'un prophète dit, c'est la vérité. D'accord? Alors, troisième qualité, al-fatana, on a traduit la perspicacité. Bon, on va expliquer ce que c'est que ça. C'est-à-dire que les prophètes ont l'esprit vif et brillant. Ils sont doués d'une intelligence pénétrante et subtile. Ils saisissent ce qui échappe à la plupart des gens et peuvent deviner des intentions chez les autrui. Ce qui leur permet de déjouer les pièges qu'on leur tend. Les messagers ont une perspicacité supérieure à celle des prophètes. Donc, c'est-à-dire qu'un prophète, tu ne peux pas lui faire un coup. Hop, il s'est fait avoir. C'est pas un prophète alors. S'il fait appel aux gens, donc il va venir dans une société, il va parler aux gens, l'autre il lui fait un truc par là, l'autre il va passer son temps à être, non. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dès que tu t'approches de lui, c'est ce que tu vas faire, ce que tu as dans ta tête. Donc, à l'avance. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi premièrement, il y a la révélation. Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a la révélation, c'est Najbril, il l'informe. Et combien sont les personnes qui sont venues tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec leur épée, etc. Le prophète, il sait à l'avance, il se présente comme ça, il lui dit « Pourquoi tu es venu ? Voilà, je suis venu pour te voir. Non, tu n'es pas venu me voir, tu as fait une réunion avec tel, tu as préparé le coup de tel, voilà ce que tu avais, voilà ton épée, voilà même le poison où tu l'as mis, etc. » L'autre, il est choqué. Donc, il est fatin, le prophète, il est doué d'une intelligence rare, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir quelqu'un plus intelligent que lui dans une société, d'accord ? Bien que Allah Azza wa Jal nous apprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam consulte-les, bien que tu es doué de toute cette intelligence, n'accapare pas l'ordre, bien que tu aies la révélation, malgré tout ça, quand tu, avant de prendre une décision quelconque sur une question qui n'est pas d'ordre de la révélation, consulte les sahaba. C'est pour ça qu'on peut en trouver les sahaba tellement ils respectent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, dans la ghazwa de Badr, dans la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que, on va dire, stratège militaire, hein, en tant que prophète, etc., mais en tant que militaire, il va faire une guerre, il a positionné les sahaba dans des endroits bien précis. Et je vous rappelle que dans la stratégie de guerre, le professeur sallam a rénové, parce que eux ils avaient une tactique connue à l'époque, à son époque, le maïmana ou le maïsara, le muqaddim ou akhira. Donc c'était quelque chose de classique, hein, dans les batailles. Ils avaient quelque chose. Donc ils ont toujours l'armée à les diviser en quatre parties, à droite, à gauche, avant et arrière. Donc tout le temps c'était comme ça. Et ensuite, il y a la stratégie sur le terrain. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un peu changé. Il a changé, il a gardé bien sûr les bases de ça, mais il a un peu changé la stratégie militaire en prenant position sur les endroits stratégiques du terrain, comme à Uhud, où il a positionné les sahaba. Ensuite, il y a le sahabi Abu Bakr qui lui dit, Rasulallah, le fait que tu nous as positionné comme ça, il lui a dit, est-ce que c'est une révélation? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a dit, c'est comme ça que tu dois positionner les sahaba avant la bataille, donc on n'en parle pas, c'est Allah qui t'a dit, donc Allah fait. Ou bien, c'est la stratégie militaire, c'est les coups, etc. Il a dit, non, c'est la stratégie militaire et les coups. Il a dit, donc, Rasulallah, moi j'ai un avis. Il a dit, c'est quoi ton avis? Il a dit, Rasulallah, il y a des puits qui sont en face de nous. Il faut que nous soyons à l'avance de ces puits, on met les puits derrière nous. Comme ça, les gens de Quraysh, ils ont fait tous ces kilomètres-là, et ils auront soif. Une fois qu'ils arrivent ici, ils n'auront pas accès à l'eau. Déjà, nous, on a l'eau, eux, ils n'ont pas l'eau. Donc, le professeur sallam, il a accepté des ni'ma al-ra'i. Donc, malgré tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme faculté, Allah azza wa jalla lui a dit, tu les consultes. D'accord? Donc, un prophète est doué d'une intelligence rare et on ne peut pas lui déjouer des trucs. Alors, quatrièmement, la transmission, at-tabligh. At-tabligh, c'est la transmission. Tous les prophètes, ils ont tout transmis. Il ne peut pas y avoir un prophète, ah, il est mort, il a oublié quelque chose. C'est tout, tout, tout. Ala wa shahadu inni ballagh. Hajjat al-wada. Ballighu anni walaw aya. Les gens qui viennent attaquer, ils attaquent les gens du tabligh. Ils disent, bon, vous, les gens du tabligh, vous nous inventez des trucs, d'où vous sortez. Je suis désolé, ils appliquent la sunnah. Le professeur Asselineur dit, ballighu anni. Je suis désolé, si tu ne fais pas le tabligh, c'est toi qui es hors jeu. Donc, le professeur Asselineur s'est mis Hajjat al-wada. Donc, c'est le dernier serment, il a dit, ballighu. Bon, faites appel, appelez les gens. Ballighu anni, ne serait-ce un verset. Balliru, anni walaw aya, faites appel à l'islam, ne serait-ce qu'un verset. Wakhlufuni fi da'wati, parce que vous êtes les héritiers de la paix, de mon cheminement. Donc tous les prophètes, ils ont tout transmis. Il n'y a pas un prophète qui va garder quelque chose ou bien qu'il a oublié de transmettre, etc. Donc ça, c'est les grandes, on va dire, grandes qualités que nous devons attribuer à tous les prophètes. Donc l'opposé. Des qualités prophétiques dont nous avons fait objet. Comme on a parlé des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a dit que nous devons attribuer à Allah azza wa jalla les 13 attributs dont on a parlé. Donc il nous est interdit de lui attribuer le contraire. Aussi pour les prophètes, il nous est interdit de leur qualifier le contraire de ces qualités, une ou plus de ces qualités-là. Puisque nous devons les qualifier ainsi, donc il nous est interdit de les qualifier de leur contraire. Leur contraire, c'est quoi? C'est le fait de commettre des péchés, ou bien le fait qu'ils commettent un mensonge, ou bien les qualifier de stupidité, ou bien d'oubli, ou la dissimulation de ce qu'ils doivent transmettre. Donc le contraire de ce qu'on a vu, c'est le fait de commettre un péché. Un prophète ne commet pas de péché, hein, d'accord? Ou bien qu'il commet un mensonge, ou bien qu'il est stupide. Parce qu'on nous prend, si vous voyez comme ça, vous ne devriez pas, je veux s'enferrer, je vois des films comme ça, la passion du Christ, des commandements, tu prends ça parfois. Même vous allez au Louvre, hein, vous allez comment on dessine déjà le dessin, hein, comment on dessine le prophète, comme ça, c'est-à-dire quelqu'un qui est stupide, quoi. Subhanallah, ajib, yani. Par contre, les rois, quand vous allez voir, hein, un roi, comment on le dessine, Charles, je ne sais pas moi, hein, 14 ou 21 ou 28, ou c'est-à-dire on le dessine vraiment avec, c'est comme si c'était un grand penseur, ouais, ben c'est un mar, mais c'est qu'un grand stratège, il a une grande pensée, il voit loin, les rois, ou bien les princes, ou bien les présidents, etc., on les présente comme des gens, mais les prophètes, mais allez, c'est-à-dire, hein, allez-y voir des fois des expositions. Les musulmans, malheureusement, on est un peu branchés sur les supermarchés. Allez-y au musée. Vous avez des vont dire, bon, je ne sais pas si on peut enregistrer. On va rentrer un peu on va parler de peinture. Vous avez une période de la peinture française, des peintres qui s'appellent les nabis. Donc c'est des gens qui sont intéressés, les nabis, c'est comme, on va dire, la peinture, on va dire, figurative, etc. Mais c'est des spécialistes en peinture, ils ont beaucoup peint les prophètes, etc. Allez-y voir ce qu'ils ont peint sur les prophètes. malheureusement, on les présente très mal. Dommage. On les présente très mal. Ce sont des gens, ce sont des modèles, subhanallah. Allah Azza wa Jalla nous a envoyés comme modèles. Il nous est interdit de déjà, c'est interdit de les dessiner, là, ça, premièrement. Ensuite, de les qualifier. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc les prophètes, bien sûr, ce sont des êtres humains comme nous. Ce sont des êtres humains comme nous. Mais Allah Azza wa Jalla leur a donné des qualités morales et physiques. Qualités morales et physiques. Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, il avait la puissance de 40 personnes. 40 hommes. Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, il avait la force de 40 hommes. Vous savez que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, lisez le livre, je vous invite à lire le livre de Al-Shifa, fi huquq al-Mustafa, Qadayat. Il est traduit, il est une très bonne traduction, hein. La traduction française elle est très bonne, je l'ai vu. Donc le livre de Shifa, de l'imam Al-Qadayat, le Shifa, oui, Al-Shifa. Donc comment ça s'écrit déjà? Avec S ou C?
C.
Al-Shifa ou Shifa? Al-Shifa. Donc, comme ça. D'accord. Le Qadri, hein, comment on dit Qadri? D'accord. Alors, je ne sais pas, une maison d'édition, etc. Universelle. Hein? Édition universelle. Dans le Kutub aussi? Non, je peux dire en français.
Dans le Kutub,
j'ai un. Ah, d'accord. Universelle.
Non, juste elle là.
عندنا وش الاخرى دي زون ديديسيون دار الكتب دار الكتب العلمية voilà donc vous trouvez ce livre là dans l'édition universelle et vous le trouvez dans le كتب العلمية نعم اين قاضي هنا
C'est
pas comme ça?
Non, c'est l'apostrophe. H chiffre.
Et l'apostrophe.
Rakala?
En fait, c'est A, c'est H, voilà, tiret, plus loin, c'est H. C'est comme ça, les gars, sur le livre.
Bon, il y a. Allez, ouais. Le problème, c'est Shiva. Non, parce que là, l'écriture, je dis Hadat, hein, chacun écrit de sa façon. Vous avez les orientalistes qui ont leur façon d'écrire, vous avez chacun écrit de sa façon. L'essentiel, c'est Shiva. Au travers ailleurs. Donc, Al-Qadaya, c'était une sommité. Hein, il est de Septa. Donc, il est enterré à Marrakech. C'est un grand savant du hadith, malikite. Donc, il a écrit cet ouvrage-là. Extraordinaire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Shifa, la guérison. Regardez, il parle de Rasulullah, il parle de guérison. Quel est le rapport entre guérison et Rasulullah? Les gens, ils passent comme ça. Hein. Il y a Shifa, un livre qui s'appelle Shifa. Bah, Shifa. Il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Shifa. Eh bien, écoute, c'est la guérison, hein, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hein. Chacun a son médecin. Hein. Al-Shifa fi huquq al-Mustafa, c'est-à-dire des droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tout un ouvrage qui parle que du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans des fins détails de ce que Allah Azza wa Jalla lui a donné, lui a qualifié, de ce que nous lui devons, etc., etc., etc. Donc, je ne sais pas pourquoi je parlais de Shifa, non, c'est
la Nabi. Sur la France des 40
ans. Ah, donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné des qualités donc, à ses prophètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, vous savez qu'il jeûne. Quand il jeûne, lui, il jeûne des fois 3 jours d'affilée, sans manger, le Maghreb. Siyam al-Wissal. Donc 3 jours sans faire ni suhoor ni photo. D'accord? Faire ni suhoor ni photo. Donc il y avait des compagnons qui voulaient faire comme lui. Ils ont dit non, ne faites pas comme moi. Inni abitu inda rabbi, yut'imuni wa yasqini. Je passe ma nuit chez mon Seigneur, il me donne à manger et à boire. Il m'alimente. Mais bon. Si on prend le sens superficiel, je passe ma nuit chez mon Seigneur, c'est comme s'il a un endroit, il va passer un repas qui lui est. Non, le repas il est spirituel, il passe sa nuit avec Aïcha et il ne va pas ailleurs. Hein? Donc ça c'est de la métaphore. Donc, mais il passe sa nuit à prier, à être en contact spirituel direct avec Allah Azza wa Jal, et cette alimentation spirituelle compense le manger, etc. etc. Et le Cheikh Ibn Arabi, dans les Futuhat, explique cela. et des grands saints expliquent cela aussi, que quand on est spirituellement alimenté, ça peut compenser, on va dire, les choses matérielles, etc. D'accord. Donc le prophète sallam a dit aux sahaba, non, vous ne pouvez pas faire comme moi, parce que vous n'êtes pas des prophètes. Donc moi, j'ai la force qu'Allah subhanahu wa ta'ala me donne quand je fais ce jeûne-là. Aussi, il y avait des compagnons qui ont voulu faire, on va dire, exagérer dans des actes. Un d'eux, il a dit, moi, je ne me marie pas, je vais me consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre, il a dit, moi, je vais jeûner tous les jours, je ne mangerai pas. L'autre, il a dit, moi, je vais prier toute la nuit, etc. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, moi, je suis quelqu'un qui se marie, je suis quelqu'un qui prie et qui dort, je suis quelqu'un qui mange un jour, et que ça m'arrive de jeûner et de manger. Il a dit, je me marie, je jeûne, je prie la nuit. La quatrième, je l'ai oublié. Bon, je vais me rappeler après. Donc, il leur a montré que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui est un être humain comme tout le monde. Mais il a des spécificités que Allah azza wa jalla lui a données. Des spécificités, on va dire, morales, comme on dit, et physiques. Hein, la force, etc. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur les prophètes? Donc en général, ces qualités-là dont on a parlé, ce sont les qualités dont, que nous devons attribuer à chaque prophète. Bien sûr, chaque prophète, quand il a... Non. Oui, des hommes parfaits. Oui. Al-Insanul Kamil. Il y a des ouvrages qui ont été écrits là-dessus. C'est Qadr al-Jilani, etc. Il parle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-Insanul Kamil, l'homme parfait. C'est vrai. Quand on dit l'homme parfait, on a dit l'homme, on n'a pas dit un dieu. Donc, c'est un homme parfait. C'est-à-dire, ses qualités, c'est un homme parfait. Voilà, c'est-à-dire, tu vas chercher un prophète, il n'a pas de défaut. Hein. C'est dans ce sens-là, il n'a pas de défaut. Donc, les prophètes, ils ont, bien sûr, on va parler un peu des miracles. Chaque prophète, quand il apporte l'information qu'il est prophète, il faudrait qu'il ramène la preuve. Hein? Il faudrait qu'il ramène la preuve. وَمُعْجِزَاتُهُمْ كَثِيرَةٌ غُرَرْ مِنْهَا كَلَامُ اللَّهِ مُعْجِزُ الْبَشَرُ. Donc, chaque prophète, il a des miracles. Un ou des miracles. D'accord? Chaque prophète doit amener la preuve que ce qu'il dit, c'est la vérité. Donc, il doit ramener la preuve de ce qu'il apporte. C'est très important de savoir qu'il vit dans une société, donc il est envoyé vers une communauté ou un peuple. Et il va défier ce peuple-là dans la chose dont eux, ils sont des spécialistes, c'est des maîtres. Donc, si vous avez une communauté qui est spécialisée dans la médecine, on ne va pas leur envoyer un prophète qui est spécialisé en astronomie. Bon, ils vont dire, écoute, nous... Donc, il va leur envoyer un prophète qui va faire des choses plus miraculeuses dont eux prétendent. C'est ce qui s'est passé avec Sidna Issa. Donc, la médecine, à son époque, était très développée, etc. Il leur a dit, bienvenue avec l'Allah subhanahu wa ta'ala. Non seulement je vais guérir, donner la guérison aux aveugles qui n'ont jamais vu, des aveugles qui sont nés aveugles, aux lépreux, mais aussi donner la vie à un mort. Subhanallah. Même aussi, donc, donner la vie à un mort. Bienvenue. Wahyul mawta, bienvenue. Fa. Donc, pour parler du sujet de les saints chiites, machin, etc. Quand Sina Issa dit Akhlouk, c'est pas lui qui crée, c'est Allah Azzawajal qui crée. Donc, At-Tasrif, Allah Azzawajal a donné la faculté de faire quelque chose. Les gens, les gens, ils sont un peu choqués quand ils disent tel saint, il a un prodige. Comment ça? Ben non, comment ça, c'est un être humain. Ben écoute, il faut avoir la croyance que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait tout. C'est Allah qui fait tout. Donc du moment que tu as cette croyance, pourquoi tu peux pas accepter qu'Allah Azza wa Jal peut donner à telle personne la faculté de faire quelque chose? Il a donné la faculté aux prophètes. Ce sont des bien-aimés d'Allah Azza wa Jal. وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه. Les miracles, Allah Azza wa Jal les a donnés aux prophètes comme il a donné des prodiges aux saints, à ses bien-aimés. Non. Les sahaba, ils avaient des prodiges. Non. Donc les prophètes, ils ont des miracles. Ces miracles-là, le Coran, on a cité pas mal, la Sunna aussi. Pour Sidna Isa, on a dit, l'un des miracles, c'est qu'il donne la vie. Il informe même les gens de ce qu'ils ont chez eux, de bien, etc. Sayyiduna Moussa, bien sûr, le bâton qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, quand tu le lances au milieu des soi-disant serpents que les sorciers ont jetés, etc., se transforme en un grand serpent qui va manger tous les serpents là, et qu'eux, ils ont vu ça, et qu'il frappe avec le bâton la mer, elle se divise en deux, qu'eux, ils vont passer. Donc tout ça, c'est des miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Sayyiduna Moussa. Sayyiduna Ibrahim, Abraham al-Khalil, alayhi salam, quand Nemrod et toute la compagnie de ceux qui étaient à son époque ont décidé de le tuer, mais l'exécuter, mais de quelle façon? D'une façon, c'est-à-dire la pire, c'est-à-dire le mettre au milieu d'un feu. Donc pendant un mois, ils ont rassemblé tout le bois qui traînait dans la ville. Hein, tous les bois, ils ont mis Ibrahim Khalil au milieu. Donc ils ont dit, on va le brûler, il va rien rester de lui, celui-là. Allez hop, on n'entend pas parler de ce qu'il nous dérange. Allez. Et Sayyidina Ibrahim Khalil, quand le feu a commencé, Sayyidina Jibril est venu le voir. As-tu besoin de quelque chose? Il croit Sayyidina Jibril. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de Sayyidina Jibril qu'il est fort. Allamahu shadidul quwwa. Allah Azza wa Jal lui a donné une force inimaginable. Il s'est proposé même au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est parti aux tribus de Ta'if, quand il a fait appel à eux, quand ils ont frappé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont jeté des pierres sur eux, ils l'ont fait saigner, ils l'ont fait casser des dents. Il a dit, si tu veux, aujourd'hui, on n'entend plus parler des gens de Ta'if. Allez hop, ils vont être une poussière. Je vais les éclater parce qu'ils habitent entre deux grandes montagnes, l'Arshadain. Il a dit, c'est deux grandes montagnes, allez hop, j'ai les frappé avec les grandes montagnes, on n'entend pas parler. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Laisse-les, de leur descendance, il y aura des gens qui vont se convertir, ils vont prendre le flambeau de l'islam, et alhamdoulilah, tu vas maintenant Ta'if, des mosquées, mashallah, etc. Donc, Sayyidina Ibrahim Khalil, Sayyidina Jibra'il, il est venu le voir. Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose? Il va dire, toi, en ce qui concerne toi, je n'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de lui. Non. Donc, il lui a dit, j'ai besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous ramène le verset du Coran Karim. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. On a donné l'ordre au feu. Kuni bardan, soit frais, wa salaman, et clémente. Parce que, et là on revient, inshallah, dans un des cours de Tawhid. Est-ce que c'est le feu qui brûle ou c'est Allah? Est-ce que c'est le comprimé, le médicament qui guérit ou c'est Allah? Est-ce que c'est l'eau que tu bois qui t'enlève la soif ou c'est Allah? Est-ce que quand tu manges et tu remplis ton ventre, c'est Allah qui t'enlève cette faim ou bien c'est le manger que tu as mangé? Il y a une discussion qui est... C'est des questions qui sont posées. C'est des discussions qui ont été traitées par les sunnites, les mu'tazilites et les philosophes. Donc il y avait un débat, sans que je rentre dans les avis des fois les philosophes et des mu'tazilites, etc. Chez les sunnites, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait tout. Parce que si Allah décide de ne pas t'enlever la soif, tu vas boire tout toujours de la mer, hein, tu auras toujours soif. Et si Allah décide qu'une miette t'enlève la faim, cette miette, elle t'enlève la faim. Donc, ce n'est pas la chose qui fait en elle-même, c'est Allah qui a voulu que la chose fasse. Donc, la chose, elle n'a rien. Ce n'est pas l'enfer et le paradis qui ont décidé, ils ont dit, non, nous avons besoin d'en rester éternel. C'est Allah qui a voulu, toi, tu vas pas rester. Donc, les choses ne font rien d'elles-mêmes. C'est ça la croyance d'un sunnite pur. C'est que toute chose ne fait rien en elle-même. C'est Allah qui décide de tout. C'est Allah qui fait tout. Et quand tu n'as pas soif, c'est Allah qui a voulu t'enlever la soif. Il t'a dit que si tu veux que je t'enlève la soif, bois. Mais c'est lui qui a décidé de t'enlever la soif. Il t'a dit que si tu as faim, mange. Parce que Allah Azza wa Jal a créé dans cet univers des lois. Il t'a dit, il faut que tu respectes les lois, mes lois à moi que j'ai créées dans cet univers. Si tu vas à l'opposé de ces lois, c'est comme si tu vas à l'encontre de mon ordre. Si tu dis, moi, je compte sur Allah Azzawajal, je vais me jeter sur 10e étage, je compte sur Allah Azzawajal. Ben non, Allah Azzawajal t'a dit, si tu te jettes, tu vas tomber. Parce qu'il a créé une loi. Et si tu vas à l'encontre de cette loi, comme il dit Hassan ibn rahimahullah ta'ala, man sara as-sunan, sara'athu as-sunan. Celui qui veut se battre contre les lois d'Allah Azzawajal, les lois d'Allah Azzawajal vont le battre. Donc Allah Azzawajal, il a créé des lois. Mais ce n'est pas les lois qui décident, c'est Allah qui décide. C'est pour cela que le feu, Allah lui a dit, non, tu ne brûles pas. Soit frais. Quoi? Et si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ajouté le mot kuni bardan wa salaman et clémente, le feu va se transformer en une glace, c'est-à-dire une glace qui va geler Sayyidina Ibrahim. Donc le feu il va faire geler. D'accord? Donc c'est pour ça que l'azal khala bardan, transforme-toi en, c'est-à-dire soit frais et clément. C'est-à-dire agréable, clément, pour protéger Sidna Ibrahim. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Après que tout le feu s'est éteint, tout le bois est terminé, ils ont trouvé Sidna Ibrahim faire le vicre. Et là, un miracle. Là, les gens, ils ont commencé, c'est la panique générale. Donc, ils ont compris que Hakikaten huwa Rasoul. Donc, Sidna Ibrahim al-Khalil Kaba, tous les prophètes, ils avaient des miracles. Le miracle. Donc on a dit que les prophètes, quand ils sont envoyés, ils ont des miracles qui vont défier, relancer un défi à leur communauté. Les gens d'Arabie, à l'époque du prophète, c'était des gens du verbe, c'était des gens de la langue arabe, c'était des maîtres, c'était la langue arabe, c'était quelque chose, la poésie, etc. C'était très 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 fort. Et quand on lit, c'est vrai, les poésies qui ont été écrites, c'est-à-dire le shi'r al-jahili, c'est-à-dire ceux qui ont fait un peu de la littérature arabe, c'est quelque chose de très 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 fort. C'était des gens forts en langue arabe. C'est-à-dire la langue arabe, elle était inna min al-bayan ila sihr. C'est-à-dire ça ensorcelle. Hein, c'est vraiment quand on lit des textes, c'est trop trop fort. Mais une fois que le Coran a été révélé, ils sont restés bouche bée. Ils comprenaient pas. C'est de la poésie, c'est pas de la poésie. C'est de la parole d'être humain. Ils ont ramené deux grands spécialistes, deux plus grands spécialistes de la poésie, pour voir. Ils ont dit, vous êtes les deux plus grands spécialistes de la poésie. Dites-nous, est-ce que ça, c'est la poésie, c'est la parole d'un être humain ou non? Ils ont dit, non, c'est impossible que ce soit la parole d'un être humain. Impossible. Parce que, comment il est formulé? C'est-à-dire, les paroles, comment elles se suivent? La coordination, le sens, le sujet. Ce qu'on appelle le balara, la rhétorique, la métaphore, tout ça, on peut le trouver dans deux, trois mots incroyables. Et non seulement ça, mais Allah leur lance un défi, il leur dit, mais écoutez, ramenez un verset, ramenez même un verset qui lui ressemble. Bon, il y avait un certain personnage qui s'autoproclamait prophète, Moussaïlima al-Kadhdhab. Moussaïlima, il a dit, bah, moi aussi, je peux ramener... du Coran, bah, ils lui ont dit, fais-nous écouter ce que tu as. Qala, al-fil wa ma adraka al-fil. La hu khurtum wa tawil wa daylun qasir. L'éléphant est quel animal est l'éléphant? Il a une grande trompe et une petite queue. Subhanallah, tu mets ça devant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa al-duha wa al-layli idha saja. ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. C'est-à-dire il y a quand même un suivi extraordinaire de mélodie, de force du verbe, même des verbes que les Arabes ont complètement oubliés, qui n'existent pas dans leur époque et qui est utilisé que eux ils ne connaissent pas. فاكهة وأبا. Qu'est-ce que c'est أبا? Et que des mots qu'ils vont chercher dans les petits, on va dire. En dehors, c'est-à-dire chez les Bédouins, des petites familles, ils disent oui, on connaît ce mot-là. C'est des mots qui sont déjà perdus un peu. Et le Coran, il leur donne de la force, il leur donne de la vie, ils reviennent ces mots-là. Parce qu'un mot, quand il n'est pas utilisé, il meurt. Donc, le plus grand miracle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran al-Karim. C'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais, quand on dit la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas la limiter dans la force du verbe et de la langue arabe. Il faut aussi rentrer dans le contenu, puisque c'est le dernier message que Allah a envoyé et qui va rester éternel, qui ne sera pas falsifié, puisque Allah a dit, de toute façon, ce livre-là, je garde, c'est moi qui va se garder. C'est moi qui garantis sa protection. Donc personne ne peut le falsifier ni le toucher. Puisque personne ne peut le falsifier ni le toucher. Et qui restera jusqu'à la fin des temps. Donc il sera le défi à toutes les générations, à tous les temps et tous les espaces. Donc à tous les temps et tous les espaces, ce Coran-là va défier, et on le voit aujourd'hui avec les avancées technologiques, avec les découvertes astronomiques, etc., combien de théories que l'être humain découvre aujourd'hui et que des grands chercheurs musulmans prouvent que cela existe, dans le Coran al-Karim, avec des arguments vraiment très détaillés. Hein. On a vu, on a suivi. Vous avez le livre Les 1000 vérités scientifiques du Coran, qui est extraordinaire. Et d'autres chercheurs qui parlent de l'i'jaz al-ilmi, c'est-à-dire le défi, on va dire, scientifique du Coran, vous allez trouver des miracles extraordinaires, qui, des théories scientifiques découvertes, que ce soit dans les mers, dans les cieux, dans l'astronomie, chez l'être humain, dans sa biologie, etc., et dont le Coran on a parlé, et que l'homme n'a pas pu découvrir avant, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour Coran al-Karim, nous parle, c'est lui, le prophète qui a vécu dans le désert, qui n'a pas connu vraiment, il a connu la mer quelquefois, mais ce n'est pas quelqu'un qui a vécu, même s'il a vécu dans la mer, personne ne peut croire, et personne n'en a parlé, qu'il peut y avoir des vagues dans le fond de la mer, mais le Coran en a parlé, ça fait 15 siècles, mais les découvertes scientifiques, ça fait pas longtemps qu'ils ont parlé des vagues, hein, que, ou bien qui fait noir, sombre, au fond de hein, l'Oumatoun. Ça, c'est des choses scientifiques détaillées, ou bien que les montagnes peuvent bouger, hein, d'accord. On a parlé. Donc, vous allez trouver ces détails-là chez des chercheurs musulmans qui s'intéressent aux défis scientifiques traités par le Coran al-Karim. Donc, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus grand miracle qui a été révélé aux gens de Quraysh. Bon, les gens de Quraysh, c'est des gens du verbe, etc. Ça leur tombe sur la tête comme des bombes. Et le soir, eux, la journée, ils passent leur temps à détester, à planifier comment ils veulent liquider le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils sont passés parce qu'ils les dérangent. Ils les dérangent tout simplement. Vous savez qu'ils les dérangent pour une question importante, c'est le commerce, c'est le business, c'est le matériel. Et c'est leur statut à eux qui est statut de noble, etc., dans sa société. Et qui vont, ils ont dit, comment nous, moi, je vais devenir au même niveau que mon esclave, ou bien avec cette femme, moi, cette femme-là, nous, les femmes, on les vend, on les achète, machin, etc., comment je vais avoir les mêmes droits qu'elle qui... Et les gens, aujourd'hui, oublient cette révolte de l'islam. On nous reproche, aujourd'hui, ah, vous, les musulmans, la femme, vous allez... Mais écoute, il revient un peu à l'histoire, mon frère. Reviens à l'histoire. L'islam, c'est-à-dire le défi dans une société où la femme n'a aucune valeur pour revenir à lui donner cette valeur d'un être humain et qui a les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'homme, il faut le faire. Non seulement ça, mais en étant seul, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec une poignée de sahaba, qui va, et les femmes, subhanallah, elles étaient quand même porteurs c'est-à-dire de cette révolution-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ont adhéré avec force. La première, celle qui qu'on va dire, c'est pas un homme, hein, c'est une femme. Non. Enfin, l'islam puise aussi sa force de l'homme et de la femme, hein, et pas que les hommes. Donc, ils venaient écouter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La journée, ils préparent comment ils vont le liquider, mais le soir, tous ils font des turbans, ils laissent que leurs yeux comme ça. Tous les grands de Quraysh, ils viennent devant la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant sa fenêtre, ils l'entendent parce qu'ils sont éblouis par le Coran. Ils attirent. Ils viennent écouter, qu'est-ce que c'est que cette parole-là ? C'est incroyable. C'est-à-dire, ils savent que ce n'est pas normal, ils savent que c'est trop fort. Donc ils sentent, ça les enchante, ça les capte. Ils viennent l'entendre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute la nuit, quand il fait la prière la nuit, il récite le Coran al-Karim, ils viennent l'entendre. Et ensuite, ils se disent entre eux, toi c'est qui, soyons, ils enlèvent l'autre, ah toi c'est Abu Jahl, ah toi, bon écoute, demain personne ne revient, hein, d'accord, hop, demain ils reviennent tous, parce que c'est pas possible, ça parle, parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle parle à l'âme, à ruh, nos âmes, c'est pas comme l'ego, Allah subhanahu wa ta'ala a créé en nous l'âme c'est quelque chose de pur, c'est pas comme l'ego, il peut être pur, il peut être noirci, il peut changer, hein, choses, etc. Mais l'âme, c'est quelque chose de pur. Et l'âme, elle capte ce message-là, Nourani. Elle capte, elle sait que c'est une vérité. Ensuite, l'ego prend le dessus, l'étouffe. D'accord. Mais l'âme, elle capte ce message-là. Elle sait que c'est une vérité. Elle se reconnaît dans ce message-là d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que vous allez trouver des convertis qui ne comprennent rien en arabe, mais si tu lui récites le Coran al-Karim, il est porté, il part avec lui, surtout si c'est fait avec d'un bon récitateur, etc. Il part. Et j'ai vu un cheikh, il a fait une expérience, il a ramené des gens qui ne connaissent pas l'arabe, c'est même pas des musulmans, hein, dans des endroits différents des États-Unis, il a fait ça en Europe, etc. Expérience. Il leur a récité des versets du Coran. Il a dit, je vais vous faire écouter des gens qui ne connaissent pas l'arabe. Et vous allez me dire, d'après vous, qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce qui vous paraît fort, qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce que... Ils ont récité du Coran et il a récité des textes avec la même... avec des tajwid. D'accord. Avec la même... avec tajwid, hein. C'est-à-dire, je suis sorti de la maison, je suis parti, machin, etc. en arabe. Mais avec ahkam tajwid. La même façon que vous. Wallah et tous, ils ont dit, ça, c'est ça. Takbir dans la salle, etc. Ils ont dit, là c'est clair et net, il n'y a pas de comparaison. Ce texte-là, ils ont dit, c'est trop fort, ça, on sent à l'intérieur que c'est, ça nous touche, ça nous absorbe. Or, l'autre, c'est la parole de Subhanallah. C'est extraordinaire. Kalam Allah subhanahu wa ta'ala, même les Qurayshites qui étaient les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, Inna alayhi la talawa, c'est-à-dire, c'est comme s'il a du miel, ce Coran-là, quand il sort. C'est une parole qui prend toujours le dessus. On ne peut pas dire quelque chose au-dessus d'elle. Ce n'est pas possible. Car il parle et traite des sujets d'actualité. Il parle des sujets de jurisprudence. Il parle des sujets d'histoire. Il parle des sujets qui va se passer. Il parle des sujets de croyance. Il parle de tout. Dans un seul livre, vous avez de l'économie. Vous avez des relations publiques. Vous avez de l'histoire. Vous avez de la jurisprudence. Vous avez de la théologie. Vous avez du débat. Vous avez des fins de détails de la fourmi, des animaux, etc. Tout ça dit... en résumé, bien condensé, en rhétorique, en rime, mais ce n'est pas possible. Un être humain qui n'a jamais été à l'école, qui n'a jamais écrit, qui n'a jamais lu, ne peut pas faire ça. Il a des miracles. Donc, Oumiya, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un illettré, qui n'a jamais été à l'école, l'illettrisme, celui qui ne lit pas, c'est une faiblesse. Pour toute l'humanité, sauf pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une qualité. D'accord. Oumiya fi haqqihi sallallahu alayhi wa sallam, kamal. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'il ne lit pas, malgré qu'il n'écrit pas, il lui a donné la science de toutes choses. Parce que Allah azzawajal a donné la science au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est très important. À travers ce najwa, il a allamahu shadidul quwwa. Il lui a donné le savoir et la connaissance et la science. Sallallahu alayhi wa sallam. Kamissa. 11h-10. On va arrêter. Okay. On va, inchallah, 10 minutes, on arrête. Donc on a dit les miracles des prophètes. Donc on peut trouver, donc chaque messager il apporte des miracles pour défier sa communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup de miracles, hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand vous lisez les livres de Sira, plus au Coran al-Karim, l'imam al-Qadiriyya dans son livre Shifa, ou bien vous allez trouver l'imam al-Qastallani, ou bien l'imam Bayhaqi dans ses Sunan, ou bien, etc. Tous, ils rapportent les miracles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont plus de 1000 miracles. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a plus de 1000 miracles. Wa mu'jizatuhu kathiratun. Beaucoup. Ghurar. Minha kalamullahi mu'jizul bashar. Et parmi elles, la parole d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui défie l'humanité. Mu'jiz, c'est un défi à l'humanité, dans toutes ses dimensions, scientifiques, rhétoriques, arabes, etc., etc. On peut citer parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois les Sahaba, ils avaient besoin d'eau, c'était une période très critique, quand ils étaient à Médine, vous savez que, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait à Médine, le nombre de compagnons a augmenté, le nombre de Sahaba, ils sont arrivés jusqu'à 1500 Sahabis, c'est très important, etc. Mais malheureusement, il est entouré d'hostilité de toutes les tribus, et vous avez... plein de gens qui sont là que pour essayer de faire renverser c'est-à-dire ce premier état musulman que le professeur Hassan a bâti à Médine. Donc ils ont tout fait à un moment donné, donc ils sont tout le temps dans des agressions, on va dire, militaires et économiques. Hein. Ils sont encerclés, on ne les laisse pas sortir, on ne les laisse pas vendre, acheter, etc. Donc à un moment donné, ils avaient besoin d'eau. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait entrer sa main dans un seau d'eau et il a levé sa main. Chaque doigt est devenu comme un robinet. Chaque doigt. Et tous les sahaba venaient remplir tous les seaux de Médine. Hein. Tous. Vous avez des gens qui voient ça tous les jours. Hein. Ils voient ça, le prophète, dans un robinet. Et tous, ils remplissent. Hein. Allez, remplissez tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est un miracle. Les sahaba, ils ont vu. Donc, comment voulez-vous qu'on nous, on se compare à des gens qui ont vu ça avec leurs propres yeux? Ils ont vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est comparé l'incomparable. Parler d'un sahabi, c'est attention. Il ne faut jamais dire quelque chose de mauvais sur un sahabi. C'est Aulia Allah. Si les sahaba, ce n'est pas les saints, il n'y a pas de saints. C'est les grands saints, c'est les sahaba. Alors, c'est que chez pour les chiites, qui disent des méchancetés, il faut faire très attention. Allah Azza wa Jal punit celui qui touche à un cheveu d'un sahabi. Il faut faire très attention. Donc, un des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rencontré un groupe de Quraishites, des kuffars. Que voulez-vous que je fasse pour que vous croyiez? Qu'est-ce que vous voulez? Eux, tellement ils ont dit, celui-là, il a tout fait des choses sur terre. On sait qu'il peut tout faire sur terre. Donc, on va lui demander des choses impossibles dans les cieux. Alors là, et qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont dit, on veut avoir la lune là, divisée en deux. Tellement, ajib, yani, subhanallah. C'est pas, on veut de l'argent maintenant, tu nous donnes, machin, etc. Non, la lune, c'est ajib, yani. Pour ça, il a dit, et si je le fais, est-ce que vous allez croire? On dit, oui, on va croire. Il a pris une épée, il a dit, bismillah, il a fait ça, la lune s'est divisée en deux. Ils ont vu tous ceux qui étaient présents, ce miracle du prophète. Tous, avec leurs propres yeux. Est-ce qu'ils ont cru? Quelques-uns ont cru, d'autres n'ont pas cru. Subhanallah. Ajib. Donc, la croyance et la conversion, ce n'est pas une question de rationalité. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit les cœurs qu'il veut, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. فَإِنْ يُثِبْنَا فَبِمَحْضِ الْفَضْلِ وَإِنْ يُعَذِّبْ فَبِمَحْضِ الْعَدْلِ. S'il nous ramène au paradis, c'est بِفَضْلِهِ. C'est par sa bonté, c'est par sa... C'est-à-dire, c'est par son bien. Et s'il nous ramène en enfer, c'est par sa justice. D'accord. فَإِنْ يُثِبْنَا فَبِمَحْضِ الْفَضْلِ وَإِنْ يُعَذِّبْ فَبِمَحْضِ الْعَدْلِ. Donc le professeur Hassim, il a fait ça, ils ont vu, ils ont dit non, c'est pas vrai. En fait, la lune, elle ne s'est pas partagée, mais tu as ensorcelé nos yeux pour qu'on la voit partagée, divisée en deux. Ajib. Ajib. C'est pour cela que vous avez des Qurayshites, Abu Jahl, ils ont vu des miracles de leurs propres yeux, mais ils ne sont pas convertis. Donc, si un cœur est enveloppé, il peut voir tous les miracles. À notre cœur, il lui suffit de quelque chose, de rien du tout pour qu'il se bascule. Même pour un musulman, pour qu'il revienne dans le droit chemin. Il lui suffit d'un tout petit signe. Alors, il faut que l'être humain, toujours, passe son temps à nettoyer son cœur pour capter et pour qu'Allah Azza wa Jalla le remplisse de lumière, parce que s'il est rempli d'autre chose, il ne peut pas être rempli. Tu as un verre rempli de, je ne sais pas moi, tu ne peux pas le remplir d'autre chose, il faut le vider. Pour qu'on puisse le, il faut le nettoyer, bien, etc., pour qu'il soit rempli de nour. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, d'accord, vous dites que je vous ai ensorcelé, mais si je vous ai ensorcelé vous, je ne peux pas ensorceler les caravanes qui sont dans le désert et qui reconnaissent les routes en se reparant avec la lumière. Il n'y avait pas des projections avec la lumière de la lune. Ils ont sûrement vu ça. Ils ont dit, on va attendre les caravanes rentrent. Ils ont attendu un mois, les caravanes qui vont au Yémen, qui vont en Syrie, Damas, etc. Quand ils ont rentré, tous ils ont commencé à parler. D'un jour, ils ont vu la lune divisée en deux. Tous. Tous, ils ont un jour, on a vu la lune divisée en deux, etc. Walakin, lan tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guideras point celui que toi tu veux, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Donc, un jour, le professeur Hassan, il a pris des pierres entre ses mains. Les pierres, elles ont commencé par tasbih. Pour revenir à la croyance, quand on parle de croyance, mes chers frères et sœurs, nos langues, moi je parle avec ma langue. Mais est-ce que c'est ma langue qui a décidé qu'il parlait, machin, c'est elle qui a décidé, elle décide. Ben non, c'est Allah qui a voulu que ma langue parle. C'est Allah qui a voulu que mes yeux voient. C'est Allah qui a voulu que mes oreilles entendent. C'est vrai ou non? Si Allah veut, ce sont mes oreilles qui vont voir. Hein? Et c'est les yeux qui vont écouter. Et, etc. etc. Le jugement dernier, là, les mains, elles vont parler. يوم تشهدوا أيديهم وأرجلهم. Les mains, ils vont parler. Est-ce que la main parle de ce monde-là? Mais non, le jugement dernier, c'est la main, elle va parler, parce que Allah lui a donné l'ordre. Donc, la vraie croyance pure, sainte d'un sunnite, c'est croire que Allah, c'est lui qui fait tout. Du moment que c'est Allah qui fait tout. Donc, ne te trompe pas, si Allah donne la faculté à tel ou tel. Je vois un ange, il peut faire un tremblement de terre, où est le problème? C'est Allah qui lui a donné cette faculté. Il ne le fait pas de lui-même. Allah lui a dit, tiens, toi, je te donne cette faculté, tu peux faire ça, fais-le. C'est Allah, wali velik ahl al-tasrif, qu'on a parlé d'ahl al-tasrif, un wali, Allah, il a fait ceci, ben Allah, ce qu'il lui a donné, c'est par lui-même. C'est Allah qui lui a donné cette faculté de faire telle ou telle chose. D'accord? Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y avait une fois, aussi des Qurayshites, avec le prophète, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, si tu veux qu'on te croie, il y a un arbre là-bas, tu appelles l'arbre qui vient vers toi.
Imaginez.
Adib. Subhanallah. Dis à l'arbre de venir. Vous devez. Ya Bismillah. Ya l'arbre, tu viens. L'arbre, il est venu, subhanallah. Avec bijudurih, avec ses racines. L'arbre vient vers le professeur. Subhanallah. Et il voit ça. Il voit ça. Walakin la ta'amal absar. Walakin ta'amal qulub lati fi soudour. L'aveuglement, ce n'est pas l'aveuglement des yeux, mais c'est l'aveuglement des cœurs. Hein? C'est l'aveuglement des cœurs. Donc le professeur Hassan, il a beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Plusieurs fois, on a fait des tentations de le tuer, le professeur Hassan. Il a révélé ça, etc. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous allons nous limiter, inshallah, à cela en ce qui concerne les prophètes. D'accord? Donc vous avez, pour Sayyidina, dans le Coran, vous avez l'histoire de Sayyidina Moussa avec Al-Khadr, ou Al-Khidr, dans la histoire, dans la sourate de la caverne, que beaucoup de gens lisent mais sans lire. C'est très important de lire ces histoires-là. Et où sont cités aussi les sept personnages qui sont cités à Al-Kaf. Hein, c'est des gens d'Al-Kaf. Allah a dit dans le Coran qu'ils ont été enterrés, on a bâti une mosquée sur eux. Donc dire qu'on n'a pas le droit de construire une mosquée dans un lieu où on a enterré un... Le Coran c'est dit, donc il faut arrêter de dire n'importe quoi. C'était des grands saints. Donc Sayyidina Al-Khadr, c'est un prophète. Hein. La vie le plus retenue, c'est un prophète, c'est pas un saint. Parce qu'il y a divergence entre les savants, et les savants qui disent que c'est un saint, et les savants qui disent que c'est un prophète. Mais la vie le plus retenue, c'est un... C'est un prophète, mais c'est pas un messager. Mais faites attention à ne pas croire que Sayyidina al-Khadr il a plus de science que Sayyidina Moussa. Il y a ulul azm min ar-rusul. Ulul azm, c'est-à-dire ceux qui ont. C'est-à-dire quatre grands prophètes parmi tous les prophètes. Quatre. Ulul azm, donc on a Sayyidina Ibrahim, on a Sayyidina Moussa, Sayyidina Isa et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc les quatre grands prophètes, ulul azm. Donc Sayyidina Moussa, il fait partie de ulul azm. Il ne veut pas. Sayyidina al-Khadr avoir plus de science que Sayyidina Moussa. Sauf que Allah Azza wa Jal a donné quelques informations et a ordonné à Sayyidina al-Khadr de faire des choses que Sayyidina Moussa ne connaissait pas. Donc, mais dans la totalité de la science, Sayyidina Moussa avait beaucoup plus de science intérieure et extérieure hein, que Sayyidina al-Khadr. Mais Sayyidina al-Khadr, il avait, Allah Azza wa Jal lui a donné quelques informations. Malgré cela, avec toute la science qu'Allah Azza wa Jal a donné à Sayyidina Moussa, voulait apprendre. Il nous donne sur les prophètes, c'est des gens de science. Il a su qu'Allah lui a dit que un de mes bien-aimés, il a des informations que toi tu n'as pas. Il a dit donc je vais le suivre pour apprendre ces choses-là. Donc il n'y a pas d'orgueil dans la science, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deux genres de gens, ils n'apprendront jamais la science. Mutakabbirun wa mustahil. Un orgueilleux. Moi je vais venir. Moi, je vais sur Internet, moi je vais. Subhanallah. Ada Rasoul. Mun ul al-azm. Il vient voir un personnage pour apprendre de lui des choses. Subhanallah. Et nous, on va sur Internet. Derrière le cheikh Google. Il fait la recherche. Il fait sa recherche. Wallahi, je suis anéanti de voir des gens qui débattent. Ils viennent, ils polémiquent, ils t'avancent des trucs. Subhanallah. As-tu regardé un cheikh dans les yeux pendant 5 minutes? En moi, qu'il te donne cette lumière qu'il a pris de son cheikh, jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les paroles, laisse-les à côté. Prends la lumière de ce que ce cheikh a pris de cheikh jusqu'à Rasulullah. يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. C'est la chaîne de transmission. La transmission, c'est pas les paroles. Un sahabi n'est pas considéré sahabi s'il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien qu'il était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut le voir. Si tu n'as pas capté la lumière, tu étais vivant, et tu étais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que tu n'as pas vu Rasulullah, tu n'es pas considéré sahabi, tu es considéré comme tabi'i. Sauf ceux qui étaient aveugles, bien sûr, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui assistaient à, on va dire, aux séances, etc., quand ils faisaient le discours, etc. Donc un sahabi n'est pas considéré un sahabi sauf s'il a vu. Pourquoi les savants ils ont dit il a vu? Parce que la vue a là quelque chose de très important, de sirr. Il y a la transmission extérieure, il y a la transmission intérieure de son nom que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté en lui, qui a transmis à ses sahabas par son regard, qu'il a jeté sur ses bien-aimés, ses compagnons, que ses compagnons ont vu leurs élèves, ils les ont transmis et ainsi de suite. C'est une lumière qu'on ne peut pas voir, c'est pas, hein, c'est quelque chose de, d'intérieur. Alors, rester derrière son PC, mais c'est bien, c'est bien, on apprend la science, etc. Mais il faut faire l'effort, c'est-à-dire vers le toucher, hein, c'est pour ça, c'est Sidna Jibril, alayhi salam, dans le premier jour que je vous ai expliqué le hadith de Jibril, il est allé s'asseoir devant le prophète, alayhi salam, il lui posait des questions pour que les sahabes apprennent. Exemple, et voir comment nous devons apprendre cette science. Innamal ilmu bitta'allum. Donc on a des deux genres de personnes qui n'apprendront jamais. L'orgueilleux et celui qui a honte. Je dis, oh non, ma question elle est bête. Non, je ne peux pas. Ils vont rigoler de moi. Je suis pas... Celui-là, il n'apprendra jamais. Moustahi, il a honte. Non, pas avoir honte. Il faut poser la question. Rahimallahu nisa al-ansar. Le professeur sallam, il était fier des femmes des ansar qui posaient des questions de femmes détaillées. Qu'on a honte de les poser, mais elles viennent poser ces questions-là, des fois à travers Aïcha, bien sûr, et des fois de façon métaphorique, mais elles viennent poser ces questions-là. Elles n'ont pas honte d'apprendre leur religion, c'est très important. Nous allons nous limiter à cela. Donc, 10 minutes de pause et on reprend le fiqh, Inch'Allah. Thank you.